I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti !
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Je suis toujours aujourd'hui avec Erwan et Damir. D'habitude, on a l'occasion de se présenter, mais là, en fait, je vais vous renvoyer aux petits épisodes que j'ai préparés avec Erwan et Damir. Et chaque épisode va présenter chaque podcasteur, et comme ça, quand ça va tourner, on aura des nouveaux épisodes à écouter petit à petit. Et ça permettra de fluidifier Radio DevOps. Bah écoutez, la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on est assez surpris parce qu'on a dépassé les 3000 téléchargements. On va tout doucement vers les 4000 téléchargements, alors ça c'est exceptionnel. Donc merci à tous et j'espère que l'émission vous plaît et qu'elle continuera à vous plaire.
Zip zip zip. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que je monte cet épisode de podcast un mois après l'avoir enregistré. Vous saurez tout sur les coulisses de Radio DevOps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a presque atteint les 6000 téléchargements. Donc voilà, je fais un petit point, comment dire, de précision sur les chiffres. C'est que en fait, le confinement a fait exploser Radio DevOps et du coup, je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc voilà, vous pourrez reprendre l'épisode sans aucun problème. Zip, zip, zip.
Aujourd'hui, on va aborder, comme d'habitude, les actualités et puis on va vous parler d'un des piliers du DevOps qui est la supervision ou le monitoring. Puisque quand on fait de l'amélioration continue, on doit mesurer pour pouvoir savoir ce qu'on va améliorer. Mais avant ça, les actus. Alors, Erwan, tu nous as préparé un petit quelque chose.
C'est une actu, c'est plus une anecdote qui s'est passée chez Google, qui a été publiée dans un livre qu'ils ont mis en libre accès, qui s'appelle Building Secure and Reliable Systems, et dans lequel, c'est un bouquin de 500 pages, dans lequel ils reprennent tout un tas de bonnes pratiques, de retours d'expérience et de mise en place de process qu'ils ont eu chez eux pour tous les sujets SRE, DevOps, etc. Alors bien sûr, une bonne partie de ce qui est décrit dans ce livre, ça nous intéresse, mais c'est des choses qu'on peut difficilement imaginer ou mettre en place puisque on travaille pas tous dans des structures de cette envergure-là. Mais ce qui est rigolo dans le bouquin, c'est justement les quelques anecdotes qui sont décrites. Et il y en a une qui m'a marqué, qui décrit en fait comment le changement du mot de passe Wi-Fi du Wi-Fi qui est distribué dans leur service de transport, donc dans leur bus, dans les bus Google à San Francisco par exemple, comment ce changement de mot de passe a fait crasher tout un tas de choses en cascade. Et donc c'est ce que je voulais vous raconter. Donc tout se passe en 2012 justement les équipes IT décident de changer le mot de passe du Wi-Fi des systèmes de transport chez Google. Et donc une fois qu'ils changent le mot de passe, ils envoient une notification à l'ensemble des utilisateurs chez Google pour leur dire voilà, mettez à jour les credentials, etc. Ce que font les personnes, c'est qu'ils mettent à jour les credentials et puis ils les sauvegardent dans le gestionnaire de password qui est utilisé par les employés de Google. Sauf qu'ils font visiblement ils font ça globalement pas tous en même temps mais pas loin, et surtout visiblement, le système de gestionnaire de passwords n'était pas suffisamment bien designé pour encaisser la charge de toutes ces personnes qui faisaient le changement de mot de passe. Et donc, du coup, le serveur master tombe, mais c'est pas grave, il y a un serveur secondaire qui tombe aussi. Ah ben mince, c'est pas grave, on passe au serveur, au troisième serveur, et ce dernier ne tient pas la charge non plus. Donc le service est KO. Ça lève une alerte, puisqu'ils ont du monitoring sur le sujet, donc la personne qui est d'astreinte est avertie que le service en question est tombé. Sauf que il a pas trop d'informations sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puisque c'est un service qui a été développé en interne, qui est en place depuis un peu plus de 5 ans sans jamais avoir été eu de problème. Et donc du coup, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il y a pas de doc qui existe, donc il décide de comme ce que font beaucoup de gens dans ces cas-là, c'est qu'on comprend pas trop ce qui se passe, bon bah on reboot le service en se disant que ça va bien repartir. Sauf que l'ingénieur d'astreinte, il savait pas, mais le reboot nécessite une carte à puce pour redémarrer le service. Et c'est une procédure assez classique chez Google, mais bon, la personne n'était pas au courant. Pour tout un tas de services, cette carte à puce est nécessaire. Et cette personne qui est d'astreinte se trouve à New York, et en fait, visiblement, au bureau de New York, ces cartes à puce ne sont pas à disposition. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler des gens, alors je sais plus, genre à Sydney, au bureau de Sydney, qui ont accès aux cartes à puce, de lui donner un coup de main. Sauf que, à Sydney, comme d'ailleurs tout dans tous les autres bureaux, il y a ces cartes à puce, elles sont dans un coffre-fort dont les personnes qui peuvent y avoir accès ne connaissent pas le mot de passe, puisque ce dernier était stocké dans le gestionnaire de password qui vient de tomber. Donc du coup, c'est un peu l'angoisse. Il y a finalement quelqu'un qui en fait connaissait par cœur le mot de passe du coffre-fort, qui arrive à récupérer une carte à puce, qui donc essaye la procédure pour le restart, mais le service ne redémarre pas, et surtout le message d'erreur qui lui est affiché est un peu obscur. Il n'arrive pas trop à l'interpréter. Du coup, c'est celle de Ciné, se dit bon bah on n'a pas le mot de passe, bon on va forcer le coffre-fort parce que on est dans une situation d'urgence et de crise, puisque ce fameux gestionnaire de password était visiblement utilisé pour tout un tas de services. Ils forcent le coffre-fort, ils récupèrent une carte à puce, donc ils enclenchent la procédure pour le reboot avec la carte à puce en la mettant là où il faut. Sauf que pareil, ils prennent la même erreur que l'autre personne dans l'autre bureau qui avait réussi à avoir la clé. Et en fait, après une heure d'analyse, ils se sont aperçus que la carte à puce, en fait, elle était juste pas mise dans le bon sens. Et dès qu'ils ont découvert ça, ils ont pu restart le service et tout est rentré dans l'ordre. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est de voir que la confidentialité des données, bah, c'est quelque chose, et le partage de secrets, c'est quelque chose qui est important. Donc là, est toujours très délicat. Donc avoir des solutions de gestionnaire de password, ça a du sens. C'est quelque chose de très critique. Mais par contre, après, le rendre disponible les informations, donc là, que ce soit dans le cas de cette fameuse carte à puce ou des choses plus primaires comme la doc qui va permettre de décrire le tuto à suivre pour réparer cette situation d'urgence, tout ça n'était pas forcément hyper clair pour tout le monde. Ça a visiblement pas été testé non plus, puisque les différents membres de la chaîne, on voit par exemple la personne d'astreinte était pas, ne savait pas pour le coup des cartes à puce, par exemple. Donc on voit qu'il y a aussi bien techniquement parce que un service aussi important qui visiblement est mal sizé, c'est quelque chose de grave, mais aussi humainement avec la doc, la gestion de la crise, etc., montre qu'il y a plein de choses qui ont fail, que ça a créé une cascade assez incroyable et que pendant un peu plus de 2 heures, il y a tout un tas de services qui ont été impliqués. Et je trouvais que c'était rigolo. C'est toujours sympa de voir que même chez des grandes boîtes qui sont censées driver un petit peu l'univers dans lequel on évolue, peuvent avoir ce genre de loupé. Et c'est quelque chose qui est toujours assez rigolo à lire. Et donc, moi, ce que j'ai retenu en lisant ça, c'est que dès qu'on fait des procédures d'urgence, c'est bien d'en créer, mais il faut tout de suite les tester avec des gens qui ont aucun regard dessus pour justement découvrir les choses un petit peu de façon vierge, découvrir les choses auxquelles nous on n'aurait pas pensé, qu'on aurait pu oublier dans notre procédure ou dans nos scripts ou autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Damir, t'as déjà eu ce genre de situation un peu triptyque?
Alors ouais, moi j'ai fait pas mal d'exploitation quand même dans le début de ma carrière, et oui, j'ai eu affaire à des incidents, des problématiques sur des choses que personne n'avait touché depuis 5 ans. Les gens qui avaient touché avaient démissionné ou avaient changé de poste, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué dans les cas-là. Et ça, c'est vrai qu'on en cette histoire est très symptomatique, si j'ose dire, d'un problème qui touche beaucoup d'entreprises, je pense, c'est de se dire: ça marche, on sait peut-être pas comment, mais ça fonctionne, ça tourne, ça tombe pas en erreur, on va le laisser de côté, on n'y touche pas. Et j'ai une anecdote qui était assez drôle, mais au final je ne sais pas du coup si elle est vraie ou si c'est juste une rumeur, mais qui disait que justement chez Google, on devait sur les services, ils ne devaient pas avoir un uptime de 100% pour qu'ils soient habitués à relancer le service et qu'ils connaissent la procédure. Et ça me paraît intéressant parce que souvent, le truc qu'on connaît pas, qu'on touche plus parce que c'est stable, on touche pas, le jour où ça pète, on sera vraiment perdu. Et surtout si c'est critique, au mieux d'avoir un downtime de 10 minutes prévu une fois, on aura un downtime de plusieurs heures au mauvais moment. Ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit ici. Donc je pense que c'est une philosophie de se dire: je sais, y a un truc qui tourne, je sais comment le remonter si ça pète et je le teste de temps en temps, c'est une bonne chose. Après, là, il y a eu aussi effectivement le facteur pas de chance. Mais c'est toujours intéressant, effectivement, ce genre de ressenti et de revue pour voir que, non, en fait, les choses peuvent mal tourner, on peut avoir des merdes à tous les niveaux et on peut être dans la pire des situations. Donc je pense que c'est intéressant et rassurant aussi de se dire que eux aussi le vivent et vivre avec.
Alors moi aussi, j'ai fait pas mal d'exploits dans ma vie. Et moi, ça m'évoque deux choses que tu dis, Erwan. La première, c'est que il faut pas avoir peur de l'échec. Et surtout, faut vraiment prendre l'échec comme une manière vraiment de s'améliorer. Et prendre ça avec philosophie, même si quand tu es en pleine astreinte, gérer ça, ça doit pas être facile. Surtout que ce que tu décris, c'était assez complexe. Mais vraiment... prendre ça, prendre l'échec et améliorer en fait les process après cet échec-là. Et alors j'ai fait un petit dessin pendant que tu nous racontais l'histoire, et en fait je me suis aperçu qu'il y avait une interdépendance assez flagrante entre le coffre-fort et le mot de passe du coffre-fort et le gestionnaire de mot de passe, puisque le gestionnaire de mot de passe contient le mot de passe du coffre-fort, mais le coffre-fort contient la carte à puce pour redémarrer le gestionnaire de mot de passe. Et du coup je me dis, là il y a eu un raté, je pense, à un moment donné. Et en effet, le fait de retester les procédures, ça aurait permis de voir ça. Et ça m'amène à la deuxième chose, finalement, que je voudrais mettre en exergue, c'est que une procédure, si elle n'a jamais été testée, en fait, il faut considérer qu'elle n'existe pas. C'est comme le backup ou la sauvegarde. Sauvegarder, c'est bien, mais alors il faut restaurer, parce que si on ne fait pas le test de restauration, la sauvegarde, il faut considérer qu'elle n'existe pas. Damir, tu vas nous parler d'un autre grand, puisque tu vas nous parler d'Amazon Web Services.
Oui, je vais vous parler du coup d'un GAFAM. Même si on ne les aime pas toujours, c'est quand même intéressant de voir les mouvements qui sont faits de leur part. Alors c'est une news qui est assez courte, mais Globalement, AWS a ouvert une nouvelle région du coup sur le continent africain. C'est la première région qui l'ouvre sur ce continent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà une région, ça représente trois data centers différents, ce qu'on appelle les AZ. Donc, c'est quand même pas juste un serveur dans un coin, c'est quand même une infrastructure assez conséquente. Et à savoir que Microsoft avait déjà ouvert une région sur le continent africain, du coup, l'année dernière, donc il y a à peu près un an aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on a quand même deux des géants de la tech qui sont présents avec des data centers en Afrique. Et donc, c'est tous les deux situés à Johannesburg, donc plutôt au sud de l'Afrique. Mais c'est, je pense, c'est une bonne chose. Ça va permettre déjà de consolider le réseau, du coup, et les interconnexions avec le continent africain qui sont pour l'instant, il me semble, de mémoire, dans les interconnexions au niveau des câbles sous-marins les plus faibles. Donc, je pense que l'arrivée des data centers va permettre d'améliorer un peu ça et va permettre aussi, peut-être, à des entreprises, du coup, en Afrique, de pouvoir travailler un peu plus sur des nouvelles technologies, à pouvoir avoir accès à plus facilement à certaines ressources. Donc je pense que dans tous les cas, c'est une bonne chose à ce niveau. On voit depuis quelques années, parce que c'est pas nouveau qu'AWS allait en Afrique, vous imaginez bien que c'est pas une décision qui se prend en un quart de seconde. Amazon est présent quand même depuis 2004 en Afrique du Sud, et beaucoup de boîtes commencent à être présentes là-bas, notamment dans les GAFAM. On a aussi Facebook et Google qui sont assez présents, notamment avec des projets comme Loon, qui est projet d'Alphabet, donc de Google, qui veut placer des ballons connectés, des ballons dans l'espace pour interconnecter le Kenya notamment. Donc c'est assez intéressant de voir un peu ce move qui est fait en ce moment de la part des acteurs, notamment des GAFAM, sur le continent africain pour justement du coup lancer peut-être de nouveaux business ou des choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses toi Christophe, même si tu aurais préféré, je pense, un acteur peut-être plus local.
Moi, j'aurais préféré un acteur plus local et je suis très pour l'émancipation des acteurs locaux. D'ailleurs, je pense qu'il doit y en avoir en Afrique des acteurs locaux. Après, c'est un territoire que je connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, enfin pas mal en tout cas, qui nous écoutent d'Afrique. Peut-être qu'ils pourraient nous dire justement ce qui se passe là-bas. Moi, ce que tu évoques, ça me fait penser à un autre projet dont j'ai entendu parler parce que j'aime beaucoup l'astronomie. Et sur Twitter, je suis abonné à des comptes astronomiques. Et récemment, il y a eu en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Starlink, qui est comment dire, ce test que fait Tesla, non SpaceX, excusez-moi, SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, qui a lancé, je crois, une soixantaine de satellites, et donc ça fait une sorte de ligne de satellites qui se suivent et qui permettent justement d'apporter l'Internet au débit. Là où ils sont. En fait, le projet de Elon Musk, c'est justement d'avoir, je sais plus combien de milliers de satellites qui tournent autour de la planète pour apporter l'Internet. Et toi, Erwan, alors qu'est-ce que tu en penses de cette histoire?
Bah, après, c'est bien parce que je mets, enfin, ça va aider au développement et ça va créer du taf, etc. Après, je suis d'accord avec ce qui avait été dit juste avant. C'est dommage que ça soit pas plus des acteurs locaux qui émergent et qui prennent à bras le corps ce genre de sujet, quoi.
Alors, la troisième news, c'est en fait, je vais vous parler de la CNCF, plutôt un projet qui arrive à la Cloud Native Computing Foundation, parce que j'ai fait une petite découverte, en fait, je ne connaissais pas du tout. Depuis avril, en fait, il y a Argo, un projet qui vient juste d'arriver dans les projets incubés. Et j'en avais pas du tout entendu parler avant ça, et c'est un projet qui est plutôt lié à le continuous deployment, donc le déploiement continu. Alors c'est un projet qui est assez récent puisqu'en fait c'est en novembre 2015 qu'il a émergé mais en interne et il a été publié en 2017, en août 2017. Et donc Argo c'est quoi? Et c'est là où ça va devenir très intéressant puisque Argo en fait c'est un groupe de quatre produits. Le premier c'est Argo Workflow, c'est le produit historique. En fait c'est un produit qui permet de faire un enchaînement de jobs un peu comme une pipeline ou carrément comme une pipeline à l'intérieur de Kubernetes. Alors je ne l'ai pas précisé, mais Argo, c'est un projet qui s'installe dans Kubernetes. Donc le workflow, en fait, va nous permettre de faire tout un enchaînement et tout un ordonnancement des jobs. Le deuxième produit, j'ai vu quelques démos et ça s'appelle Argo CD, donc Continuous Deployment. Ça va nous permettre de faire du GitOps en mode pool, donc on va récupérer les informations de notre Git pour pouvoir installer et déployer des applications. Et Argo CD, il est compatible avec les manifestes Kubernetes, il est compatible avec Customize, il est compatible avec Helm, Cassonet, JSONet, et on peut même apporter notre propre méthode de déploiement, puisqu'il y a une gestion de plugins. Cette partie-là, moi, c'est celle que je préfère. On a aussi Argo Rollout, qui apporte des nouvelles stratégies de déploiement, puisque, pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, il y a deux principales stratégies de déploiement, qui sont Recreate, qui permet d'arrêter, en fait, une application et de la recréer, ou Rollout, qui permet, en fait, de déployer petit à petit les applications. On crée des pods, des nouveaux pods avec la nouvelle version de l'app, et puis on arrête les anciens pods, et puis l'application migre comme ça. Et ben Argo Rollout, il apporte deux nouvelles stratégies, le Blue-Green, donc l'exploitation en parallèle de deux applications, donc la V1 et la VN-1, et Canary, qui permet de faire une sorte de load balancing sur une population restreinte d'utilisateurs, où on va en fait router une partie de nos utilisateurs vers la nouvelle version. Et enfin, le dernier produit, c'est Argo Event. Argo Event, en fait, il va permettre de déclencher des traitements, n'importe quel traitement, sur des événements. Et la source de ces événements, ça peut être donc soit des événements qui viennent d'Argo Workflow ou d'Argo Rollout, soit des événements qui viennent de Git, de Webhook, de création d'objets Kubernetes, des événements qui peuvent venir de S3, de tâches planifiées aussi, ou tout un tas d'autres choses comme les services de messaging, où on peut même créer aussi, pareil avec des plugins, des custom déclencheurs. Et Argo Event, en fait, il va nous permettre de déclencher soit Argo Workflow, soit Argo CD, soit plein d'autres choses. Donc moi je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler d'Argo avant cette news.
Moi pas du tout. Je pense que c'est jamais arrivé dans un de mes feeds de news que je suis. Quoi.
Ouais, c'est un peu pareil, mais je n'ai pas entendu parler. C'est la première fois que j'entends parler. Donc j'ai pas vu ni dans une news ni dans autre. Après, si c'est pris en charge par le CNCF, c'est que le projet doit être quand même assez conséquent et doit être quand même déjà développé. Donc, à voir.
Alors le projet, il est en effet assez développé. Moi, je compte le tester d'ici la fin de l'année. Je vous en ferai des retours. Et en tout cas, les vidéos que j'ai vues sur le net, sur Argo, me laissent rêveur. Parce que ça a l'air vraiment très très puissant. On va pouvoir passer au sujet principal de notre podcast, qui est la supervision, le monitoring et d'autres petites choses. Alors, quand on parle de supervision, la première chose qu'on a en tête, c'est « Mais qu'est-ce que c'est la supervision ?» Du coup, Erwan, pour toi, qu'est-ce que c'est que la supervision ? Qu'est-ce que c'est ta définition de la supervision ?
Je dirais, de façon vraiment très méta et générale, je dirais que la supervision, c'est savoir donner un état à un instant T d'une ressource, d'un process, d'un workflow ou d'une machine, par exemple. De façon très méta, c'est ce que je dirais.
Et toi, Damir, tu as une petite définition à nous donner ?
Je dirais un peu la même chose. Pour moi, la supervision, c'est de connaître l'état d'un service à un moment donné. Donc, généralement, au quotidien, et d'être alerté en cas de souci. Mais ça, je le mettrais des fois même à part. Je le mettrais plus dans l'alerting. J'ai tendance à différencier les deux.
C'est vrai, on parlera de l'alerting tout à l'heure. Moi, j'ajouterais un petit plus. La supervision, ça nous permet aussi de visualiser ce qui se passe. Parce que être au courant, on peut l'être de manière textuelle. Mais pour moi, il y a un côté visualisation qui peut être très intéressant dans la supervision en fonction des outils qu'on va utiliser. Et Damir, tu nous parlais en préparant l'émission, tu nous parlais de la différence entre monitoring et observabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Effectivement, oui. Donc du coup, comme on disait, c'est vrai que la supervision, c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avoir un état qui est pas forcément très précis, qui va avoir tendance à être binaire. Globalement, c'est un peu ce que vous utilisiez classiquement sur les infras maintenant un peu anciennes ou les infras de DSI un peu classiques. C'est vous, par exemple, j'ai un curseur qui me dit si mon disque dur il est occupé à moins d'un pourcentage ou pas, et du coup qui est soit globalement vert ou rouge, il y a souvent un état intermédiaire, mais globalement, on fonctionne sur un état qui est plus ou moins binaire et qui va être attaché à un service. Donc généralement dans le monitoring, on dit on surveille un service qui est associé à un host. Par exemple, le disque dur qui est associé à une machine. On pourrait surveiller aussi la RAM qui est associée à une machine, etc. Donc on a ce combo entre guillemets du service et host, et on va surveiller ce service avec un état binaire. En tout cas pour moi, ce qui va être la définition de l'observabilité, c'est quelque chose qui va être plus complet, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas juste un état binaire, on veut avoir des métriques, donc des métriques sur un tas de choses, le maximum possible, j'aurais envie de dire. Donc que ça aille de l'utilisation du réseau à, par exemple, le nombre de messages dans une queue SQS, et à partir de là, on va en déduire un état. Donc c'est-à-dire plutôt que dire ce service, il est up, ma machine elle est up, donc mon service il est up, là on va agréger des ressources, des métriques, et on va en définir à partir de ces métriques un état, et un état de santé qui n'est pas binaire. On peut par exemple se dire: j'ai beaucoup de queues dans ma file SQS, mon application arrive à les dépiler, c'est un peu lent, c'est juste qu'on a une montée en charge. Mais on va voir quelque chose de plus précis à ce niveau-là. Donc c'est pour moi, voilà, c'est un peu l'évolution là-dessus, et c'est de plus en plus utilisé, parce qu'avec le microservice, en fait, avoir juste un système de up ou down, bah, globalement, c'est plus suffisant, en fait, pour ce type de service. Après, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à cette définition. Par exemple, toi, Erwan, tu penses qu'il y a des choses encore à ajouter sur cette nouvelle méthodologie?
Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, de façon un peu globale, je dirais juste c'est que tu as c'est ça, c'est que tu as tout un tas d'informations qui vont te permettre en fait de vraiment suivre ton activité un peu plus au détail. Et souvent ce qu'on entend par observabilité, c'est, enfin moi je l'associe en tout cas plus à la notion de vraiment de service, mais au sens est-ce que ça marche ou pas, plutôt que lié à des ressources, je sais pas, CPU, RAM, disque, etc. C'est-à-dire que je veux savoir si mon microservice A est fonctionnel et que tout est OK. Et ben pour moi l'observabilité, c'est: je vais avoir cette info avec justement le temps de traitement de moyen de mes messages, le nombre d'erreurs qu'il a sorties sur les 10 dernières minutes, etc.
En effet, moi j'ajouterais en fait que pour moi, la supervision de manière globale et l'observabilité, ça nous permet d'avoir en fait l'état de santé de notre système d'information ou de nos applications. Et sans cette supervision, en fait, on est finalement aveugle, et la seule chose qui nous rappelle que bah, le service ne marche pas, c'est les utilisateurs, et quand ils appellent le support, ils disent: ah, ça marche pas. Si on n'a pas mis en place cette supervision, on n'a pas de vision justement de l'état de santé global de notre application ou de notre système d'information. Du coup, si on veut commencer à mettre en place une supervision, parce qu'on n'en a pas ou parce qu'on commence tout simplement, par quoi vous commencez en fait? La première chose que vous faites, c'est quoi quand vous démarrez une application et que vous voulez mettre la supervision dessus?
Moi, je peux parler d'un truc que j'ai fait assez vite dans la boîte où je travaille. C'est que en gros, chaque client a sa propre stack, donc sa propre API qui parle à sa propre base de données et son propre serveur de queue, etc. Et donc on a, je sais pas, 250, 300 stacks déployés en prod. Et ben, en fait, pour monitorer facilement le côté fonctionnel de chaque stack, c'est donc: est-ce que tout est prêt pour que ça fonctionne? Le premier truc que j'ai fait avec l'équipe, c'est: on a créé une page de statut. Et en fait, quand on ping cette page, la page va faire quelques checks de type connexion à la DB, connexion au serveur de queue, le nombre de workers qui tournent. Il va vérifier, enfin il y a un petit trick pour vérifier que les versions sont compatibles, etc. Et en fait, si un de ces tests n'est pas OK, bah ça nous renvoie un code statut différent de 200. Donc nous, on peut monitorer comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on déploie une stack, bah en fait on crée automatiquement un test sur cette page de statut. Et donc du coup, en fait, pour pas cher, on a un monitoring pour chaque stack de nos clients qui est automatisé et qui nous permet d'avoir un peu de supervision pour commencer qui est pas cher à mettre en place.
Du coup, c'est juste une status page où tu vois si c'est up ou down le système ou il y a des métriques du coup qui sont quand même agrégées.
Alors il y a quelques métriques mais qui sont très c'est typiquement le volume de données que la stack gère ou des choses comme ça. C'est très léger. Et je pense qu'on justement on parlait de comment on fait pour commencer. Bah pour commencer, je pense avoir ce genre de système, c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur une infrastructure qui peut-être grandir assez vite. Et donc à n'importe quel moment, on est en mesure de pouvoir dire que tel client est OK ou KO. Mais actuellement on remonte quelques métriques mais qui sont quand même très légères. Je pense que l'étape d'après ça sera d'exposer des choses beaucoup plus avancées comme on peut le faire avec tout ce qui est Prometheus compatible où tu as des détails beaucoup plus prononcés que ça quoi.
Alors moi on le fait régulièrement en effet, c'est une page de statut ou une page d'health check en fait qui permet de savoir soit à travers la supervision si le service il est up, soit carrément à travers le cloud provider de savoir si la machine elle doit être recyclée ou pas. Par exemple, si je prends l'exemple de Kubernetes, on va dire que je parle beaucoup de Kubernetes aujourd'hui, mais c'est le fameux health check des pods. Si les pods en fait ils répondent pas à une URL particulière, et ben Kubernetes il va stopper le pod, il va redémarrer un autre. C'est ça que tu évoques, quelque chose qui nous permettrait de savoir que l'application elle est bien en état de marche.
Ouais, ça c'est le premier. Je trouve que c'est des premiers steps à mettre en place au plus vite quand on doit monitorer un service.
Ok. Mais ça c'est bien si on a justement un service qu'on déploie ou sur laquelle on a la main, mais si on est dans une vieille application monolithe sur laquelle on n'a pas forcément la main pour pouvoir modifier en fait les pages de l'application. Par où vous commenceriez, vous, pour justement mettre en place une supervision un peu plus légère?
Du coup, alors moi je vais donner un peu mon avis là-dessus. C'est vrai que, bon, moi je n'ai pas répondu à la question précédente, mais du coup, globalement, il y a quand même deux cas, je me permets juste de re-rappeler ça. C'est si jamais on développe l'application, on est en cours de développement et déploiement de l'application, auquel cas on peut avoir une discussion avec les développeurs et travailler, je pense que c'est ce qu'il faut faire, travailler avec eux pour qu'ils nous exposent des métriques importantes, les traiter, déterminer ce qui est important ou pas. Je pense que c'est important de le faire. Et si effectivement on arrive sur quelque chose qui est déjà existant, à plus fortiori une application de type monolithe, là ça va être vraiment plus compliqué. On va pas pouvoir mettre de pages spécifiques exposées vraiment de valeur. Après, on essaie de faire un peu au cas par cas. Si on est sur du Java, on peut peut-être récupérer des valeurs intéressantes au niveau de la JVM. Et encore, il faut savoir bien les traiter après et en déduire les bonnes choses. Mais ça peut être aussi intéressant, du coup, de plus tester tout ce qui va être latence et les latences des différents services, les I/O, les choses un peu classiques, vu qu'on aura, on sera limité à ça, pour en déduire un fonctionnement d'application, savoir s'il est bon ou pas bon, ou moyen, dégradé. Mais je pense qu'on va pas pouvoir aller vraiment plus loin si on n'a pas la possibilité d'exposer des données supplémentaires niveau dev. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. Donc oui, pour un monolithe, je pense qu'il faut voir ça un peu à l'ancienne, entre guillemets, si j'ose dire.
Moi, je me souviens que dans une ancienne vie, il y avait aussi un monolithe où personne pouvait trop toucher pour rajouter exactement ce que tu décrivais, exposer des informations et tout. Mais par contre, et du coup, on savait pas trop comment monitorer ce truc-là, c'était un peu galère et tout. Et en tout cas, à minima, ce qu'on avait fait, mais peut-être qu'on va l'aborder plus tard, mais c'est de monitorer l'activité des logs. Et en fait, les logs, ils sont de bonne ou de mauvaise qualité, on peut en discuter, mais par contre, on ose espérer que quand il se passe mal, quand des choses se passent mal, c'est bien en erreur, quand il y a des warnings, etc., c'est tagué avec warning. Et du coup, ne serait-ce que de suivre la volumétrie autour de ça, ça peut déjà donner un un premier indice de comment ça se passe sur ton monolithe. Est-ce que il est en train de générer un milliard d'erreurs en boucle? Est-ce que tout se passe bien? Pour revenir un peu à la question du début, c'est comment commencer? Bah, dans le cas idéal, je pense qu'il faut avoir des pages de statut et qui exposent en plus des informations un peu poussées. Mais en tout cas, à minima, ça me paraît mandatory de vraiment suivre les logs sur des services qui n'exposent rien, soit sur lesquels on sait qu'on ne pourra pas faire de modifications pour avoir plus d'informations.
Alors, la première chose que je fais, en fait, pour démarrer rapidement dans un nouveau projet, j'installe tout simplement des produits de supervision qui s'installent juste sur le serveur avant de pouvoir faire autre chose. Notamment, alors si vous connaissez pas en ligne de commande, alors c'est pas vraiment du monitoring parce que c'est juste pour avoir l'état en live de ce qui se passe sur le serveur, mais htop, moi je vous le conseille, si vous le connaissez pas, c'est un très bon remplaçant de top. Mais surtout, en fait, j'installe NetData maintenant que j'ai découvert NetData, donc j'installe NetData sur tous les serveurs que je lance. Ou vous avez aussi un autre équivalent qui s'appelle Monit. Ça permet d'aller très très vite et d'avoir pas forcément un point central pour tout regarder, mais au moins sur chaque serveur vous avez l'information. Et comme c'est pas dépendant de l'application, bah, on peut l'installer sur le système. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est si je veux avoir un point central et qu'en fait on doit aller très très vite dans les projets, je prends une solution SaaS. Donc là, au tout début, je prenais Neuralink et puis maintenant, je vais plutôt vers Datadog, que j'apprécie plus particulièrement. Et j'installe Datadog sur les serveurs parce que ça va très vite. Il n'y a pas besoin de créer l'infra. Il y a juste besoin d'installer un agent. Ça se fait en 5 minutes. Et puis, il y a des rôles en cible pour ça. Donc, ça permet d'être... Moi, du coup, je le mets dans tous mes serveurs aussi. Et après... L'étape d'après, ce sera d'avoir sa propre infrastructure de monitoring. Est-ce que vous lancez aussi avec des SaaS quand il faut aller vite au début des projets pour changer les choses, ou est-ce que vous partez directement sur une infra complète, ou est-ce que même vous avez votre infra complète de supervision?
Moi actuellement, j'ai vachement poussé pour qu'on ait notre propre infra là-dessus, puisque ça revenait nettement moins cher. C'est essentiellement pour des histoires de coûts, et que j'avais déjà tous les scripts qui allaient bien pour déployer une stack ELK qui va bien. Et donc du coup l'équivalent de l'agent que t'installes sur tes serveurs, donc ELK, c'est le triptyque Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc Elasticsearch pour la base de données, Logstash pour l'espèce de ETL et on va centraliser en lui envoyant les logs, et Kibana pour faire la visualisation. Et donc du coup les agents qu'on installe sur les serveurs, c'est Filebit pour remonter les logs, qui fait le rôle d'un syslog en gros. Et MetricBit qui va renvoyer l'équivalent de ce que je pense tu installes, enfin que le même type d'information que ce que tu as avec l'installation d'un agent comme Datadog, quoi. Et au final, c'est ce que je trouve pas mal dans cette stack, c'est que c'est pas trop compliqué à scaler, puisque en gros la faire scaler, c'est juste savoir faire scaler Elasticsearch. Donc même sans être un expert de la solution, c'est pas très très compliqué à faire. Et puis après, Logstash et Kibana, c'est quand même assez facile à maintenir. Et donc du coup, moi j'aime beaucoup cette stack là.
Je me permets de te poser la question. Je suis désolé, Damien. Vous êtes combien dans ta boîte? Parce que moi, c'est souvent, je suis tout seul, je suis le seul ops, donc maintenir la totalité des trucs, c'est un peu compliqué pour moi. Mais vous êtes combien pour justement vous permettre d'avoir un ELK as a service en interne, par exemple?
Je suis le seul DevOps full-time. Dans l'équipe back-end, je pense que tout le monde saurait reprendre et relire ce qui a été fait sur la stack ELK. Aujourd'hui, on va dire que C'est moi qui ai initialisé la mise en place de tout ça, mais si je suis pas là, je pense qu'il y a aucun souci. Enfin d'ailleurs, c'est je peux même le dire, même quand j'étais pas là, il y a eu aucun souci pour maintenir tout ça. Ouais, enfin, on en est globalement content. Ça pourrait être nettement mieux, mais en tout cas pour pas trop cher, parce que clairement, comme j'avais déjà fait ça auparavant, le projet il a démarré en 2 jours, quoi. En 2 jours, on avait toute la stack et on avait déployé les trucs. Il restait que les logs éventuellement qui devaient être parsés. Il fallait rajouter les règles qui allaient bien, mais sinon, on a démarré hyper vite sur ce sujet, quoi.
Du coup, ouais, c'est vrai que de mon côté, en étant consultant, j'ai tendance à m'adapter en fonction des besoins clients, du contexte client. Et donc, ça différencie assez régulièrement. Là, actuellement, on est plus sur du full cloud, donc on est sur du CloudWatch. Ça fait le taf globalement et ça a l'avantage de ne pas multiplier les outils quand on est déjà sur AWS qui est déjà assez complet quand même complète comme plateforme. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ouais, pour les solutions SaaS, c'est vrai qu'il y a Datadog. Après Datadog, le problème c'est que ça va vite, mais la facture va très vite aussi. Moi j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite niveau facturation. Donc je tendance à pas trop l'utiliser. Ce que je retrouve assez souvent et assez régulièrement, moi je travaille plus sur des très gros projets, donc on est à peu près 40-50 en fonction de toutes les équipes confondues qui s'occupent des diverses parties, je retrouvais souvent du Dynatrace. C'est vrai qu'on a parlé assez de manière assez transparente de aussi bien la supervision, de l'observabilité, mais aussi du log management, notamment là avec la solution de LK. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est complémentaire, les logs, et qui est un sujet à part, qui est le log management. Et du coup, généralement, les outils intègrent les deux. Par exemple, Dynatrace ça fait du SaaS et ça fait aussi du self-host, mais c'est assez lourd et assez cher. Et ça va vous permettre, du coup, de faire du monitoring, de l'observabilité et du log management et de l'APM, donc de la supervision au niveau du fonctionnement de l'applicatif, mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans le podcast. C'est assez intéressant pour ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu d'intelligence dedans. C'est-à-dire, il va agréger automatiquement, il va faire de l'auto-discover. On le pose, par exemple, vous avez une infrastructure, vous le posez à un endroit dans l'infrastructure, il va faire de l'auto-discover sur toutes les interactions. Il va identifier une première cartographie automatique et il va commencer à essayer de définir des alertes ou des symptômes d'alerte. Donc, je prends un exemple. Vous avez demain un incident parce que il y a eu une surcharge. Par exemple, je reprends l'exemple parce que c'est un exemple facile sur un RabbitMQ. Bah lui il va identifier que vous avez eu un incident qui est lié à ça, et du coup, les prochaines fois, quand il va commencer à voir ce RabbitMQ, en fait, il commence à empiler et que l'application n'arrive plus à scale, elle n'arrive plus à dépiler, il va pouvoir vous prévenir et va vous dire attention, ça c'est quand même une alerte qui est dangereuse, elle est critique. Donc, ça c'est assez intéressant chez Dynatrace. Après, c'est un produit qui est très lourd, c'est vraiment déployer le char d'assaut. Donc, si on est sur des plus petites applications, des plus petits cas, j'ai tendance à bien aimer le combo du coup de Prometheus et Grafana, et utiliser du coup, bah, comme le disait Erwan, une stack ELK pour ce qui est log management. C'est un peu plus, on va dire déjà c'est self-host, donc c'est quelque chose qui est pas mal dans beaucoup de situations, et c'est quelque chose qui marche très très bien du coup et qui est assez connu. Donc il y a beaucoup de ressources, il y a des recettes Ansible et des choses comme ça, donc c'est vraiment top.
Alors on va revenir sur les solutions. Je sens que ce podcast va être long. Donc oui, tu fais bien de le dire, mais en effet, quand on commence avec des SaaS, la facture monte très vite. Et du coup, c'est très vite, il faut penser le après. C'est-à-dire que pour moi, la première marche, c'est hop, on installe un SaaS. La deuxième marche, c'est OK. Et dans 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dès qu'on a 3, 4, 5, 10 machines, ça commence en effet à être très très cher. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est que finalement, la supervision, c'est pas forcément répandu autant qu'on pourrait le penser. Et comme tu nous l'as suggéré, Damir, mais finalement, pourquoi est-ce que ça nous repousse de mettre en place une supervision alors que finalement, c'est un des piliers DevOps? La mesure, c'est un des piliers DevOps. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus?
Alors, je pense qu'il y a une première chose qui est très bête et qui est peut-être même, je pousse un peu, on va dire, mais qui est psychologique et qui est beaucoup associé ça en fait aux alertes, à avoir en fait une réalité. Ils ont peur d'être dérangés, de passer leur temps à finalement répondre à des alertes plutôt que faire avancer certaines choses. Donc, je pense qu'il y a un côté inconscient là-dessus. Et mine de rien, c'est un métier, la supervision, moi, c'est un métier. généralement on a tendance à le faire aussi, mais c'est un domaine qui est à part entière, qui est compliqué comme le log management, qui demande des connaissances, qui demande du temps, et je pense que les gens du coup ont tendance un peu à en avoir un peu peur, même si on peut commencer assez progressivement, entre guillemets. De toute façon, dans notre métier, c'est ça, on itère, on commence quelque chose de simple, on améliore et on l'améliore. Et il y a aussi une autre chose, et ça c'est une chose qui est valable pour beaucoup d'autres domaines, mais je pense que dans beaucoup de projets, en fait, on a tendance à avoir un mauvais symptôme qui est de se dire, et c'est pas forcément les techs, c'est plus les chefs de projet, de se dire, on a un projet, forcément un projet, on le sait tous, on va pas se leurrer, il va être en retard. C'est comme une construction de maison, c'est comme plein de choses. C'est des projets qui ont du retard parce qu'ils sont très gros et ils ont une nature imprévisible. Donc on va avoir du retard et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que le chef de projet, il va essayer de raccourcir le délai pour pouvoir livrer quelque chose. Et lui, bah son client, s'il voit pas le monitoring, bah il voit pas la documentation, il voit pas l'optimisation. Lui, ce qu'il voit, c'est que ça marche, qu'il a sa page d'affichée ou son application qui run. Et je pense que du coup, on a tendance à. Ils ont tendance, du moins on va dire, l'organisation globale a tendance à essayer d'un peu compresser ces étapes de monitoring ou un peu les pousser de côté. Et du coup, on a soit peu de temps, soit pas de temps pour les faire dans certains cas. Je dis bien dans certains cas parce que c'est vraiment pas la situation adéquate et faut pas hésiter, je pense, à en parler, à remonter que c'est un problème de ne pas avoir du temps consacré à ça. Et je pense que du coup, ça n'aide pas en fait dans ce contexte à travailler sur ce point qui est malheureusement trop souvent négligé. Je sais pas si Erwan, tu as d'autres idées sur des choses qui pourraient influer sur le temps qu'il y a.
Bah non, mais je pense que c'est un peu comme beaucoup de sujets, c'est que c'est des sujets qui sont longs et complexes, et effectivement, comme tu, de façon un petit peu, un petit peu cliché, c'est pas des features qui sont développées quand on développe une page de statut. Donc du coup, je pense que c'est juste parce que c'est pas dans beaucoup de cas, pardon, c'est pas client facing, et du coup on met ça un petit peu sous le tapis, quoi. Mais pourtant, enfin, avoir des bons logs, savoir, savoir, avoir des métriques intéressantes sur son appli, c'est pourtant mandatory pour être en mesure de l'améliorer. Mais c'est vrai que c'est pour le client final, c'est pas forcément des choses primordiales, donc peut-être que c'est pour ça que c'est plus un peu un sujet, ouais, qu'on repousse un peu éternellement.
Alors, moi, je vois plusieurs choses. La première, c'est en effet, c'est une question de coût. Parce que mettre en place une supervision, ça a un certain coût, c'est un investissement. Et en effet, c'est pas de la fonctionnalité que finalement les développeurs vont pousser. Et c'est, à mon avis, une sous-représentation de nos métiers dans les équipes de développement produit. C'est finalement l'ops, c'est quelqu'un qui est loin, il arrive peut-être après, puis bah. Ce qu'il va faire, ça se voit pas. Alors que pour moi, c'est aussi une vision comptable. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une vision comptable et c'est un des problèmes justement de problème entre services, entre dev et ops, c'est qu'en effet, les devs, ce qu'ils font, c'est de la fonctionnalité comptablement, ça s'amortit, donc c'est pas des coûts, c'est vraiment de l'investissement. Alors que l'ops, lui, il est là pour assurer la stabilité du système, donc c'est un coût parce qu'il n'apporte rien finalement à l'entreprise. Et ça, c'est pour moi une manière de voir les choses qui est biaisée. Parce que quand on construit une maison, si on met pas de fondation, eh ben, la maison, elle va s'écrouler à un moment donné. Donc c'est pareil pour une application. Si on ne s'assure pas de pouvoir mesurer les choses pour pouvoir l'améliorer après, si on fait pas les choses pour que l'application, elle soit robuste, eh ben, finalement, l'application, elle va finir par s'écrouler un jour ou l'autre. Donc pour moi, même le travail de l'ops, il devrait être considéré par les entreprises comme un investissement. Et d'autant plus avec le mouvement DevOps, hein, puisque le mouvement DevOps, on fait des itérations, on automatise. Donc là, clairement, il y a vraiment un shift à faire au niveau des entreprises pour penser comptablement ça. Et je pense que ce truc-là, le truc comptable, fonctionnalité, ça aide pas forcément les entreprises à justement mettre en place cette supervision. Et pourtant, on en a besoin, hein. Enfin, je veux dire, si vous voulez savoir ce qui se passe sur votre système d'information, sans supervision, vous faites quoi, vous?
Je pense qu'il faut aussi, je rajoute, qu'il faut aussi qu'il y ait de la pédagogie. Comme tu sais, avec le mouvement DevOps, mais c'est un peu aussi cliché. Mais il y a une époque, le dev, le l'ops, c'était le mec dans la cave qui touchait au serveur. On lui envoyait des tickets quand il y avait besoin, mais autrement, on lui parlait pas. Et je pense qu'il y a aussi un vrai rôle dans la communication et la pédagogie, notamment de la part des ops, à expliquer justement aux financiers, aux décideurs ou aux chefs de projet, du moins aux gens qui font décider des temps alloués, des budgets, de leur dire. Leur expliquer dans leurs termes que bah, la supervision, le monitoring, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est important pour leur application. Par exemple, tu prends l'exemple des comptables, mais un comptable, faut lui expliquer que bah, sans ça, toi tu sais, t'as pas de projection sur tes chiffres des années suivantes, t'as pas de KPI intéressantes, t'as pas de choses qui te permettront d'avancer. Et lui, il l'utilise pour son budget, donc il va comprendre. Mais je pense que c'est important de faire ce travail de pédagogie, de leur expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est important.
Et puis de toute façon, pour se projeter, t'es obligé de monitorer. Le monitoring, c'est de façon très générale, c'est pas juste savoir si c'est OK ou KO, c'est aussi pouvoir anticiper les futurs besoins. Si on n'a pas de métrique qui nous permet d'avoir de la visibilité sur l'évolution. De la charge d'un service ou quoi, bah on peut pas savoir combien ça va nous coûter dans 6 mois. Donc le monitoring, il faut le voir plus que comme juste un outil tech, mais c'est vraiment un outil important du produit pour savoir où on va. Et c'est pour ça que c'est un des piliers du mouvement DevOps.
D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Alors, on est convaincu qu'il faut passer à la supervision, qu'il faut installer une supervision. C'est la phase name dropping un petit peu. C'est quoi les solutions qu'on utilise au final? Il y a des solutions qui sont un peu plus historiques, des solutions qui sont un peu plus récentes. Je vais te laisser commencer, Erwan. Quelle solution toi tu as utilisée déjà et quelle solution tu préfères maintenant et dans quel contexte?
Alors moi j'ai pas mal utilisé Nagios pendant une bonne partie enfin quand j'ai commencé à travailler. D'ailleurs mon premier sujet de stage était sur la mise en place d'une supervision avec Nagios, que c'est un outil que j'aime plutôt bien et que je trouve qui était pas trop mal foutu, même si Nagios marche essentiellement, même s'il y a d'autres façons de faire, mais essentiellement sur du polling. Donc c'est tous les X temps, il va aller pinguer une machine, il va aller récupérer, il va aller faire un curl sur une URL donnée, etc., etc. Donc c'est ce point central qui va récupérer l'information, et donc du coup les passages à l'échelle, et puis le côté le côté un peu volatile avec des serveurs qui seraient présents que genre 2 heures et qui repartiraient, bah tout ça c'est pas vraiment compatible avec la philosophie de Nagios. Mais bon, ça a le mérite quand même de plutôt bien fonctionner. Je crois que c'est quand même encore actif. Et puis moi je l'aime bien aussi parce que historiquement j'étais un contributeur, c'est Nagios, j'aime bien. Après, j'ai aussi un peu utilisé Munin. Alors, je sais pas si on dit Munin ou Munin, mais que je trouvais intéressant parce que c'est pareil, c'est du polling, et en fait, en faisant rien, juste en faisant le apt-get install et puis en précisant l'IP du serveur à qui on renvoie les informations, on a des graphes, on a plein de choses. Donc, je trouvais que c'était pas trop trop mal. Mais aujourd'hui, bah, comme je disais un peu plus tôt, moi je trouve qu'avec une stack ELK, on peut faire quand même pas mal de choses. Mais après, les outils que je trouve vraiment les plus intéressants, c'est effectivement Prometheus, parce que c'est largement répandu, qu'il y a beaucoup de services savent exposer les métriques et tout un tas de choses pour Prometheus. Et donc du coup, ça le rend un petit peu incontournable. Donc voilà, c'est en gros c'est ça les outils qui me viennent en tête. Après, il y a aussi les Abix et autres, mais qui sont un peu comme Nagios.
Du coup, c'est vrai que j'ai utilisé un peu certains outils aussi. Moi, Anagios, comme tout le monde, je pense que j'ai découvert un peu la supervision avec. C'est vrai que l'organisation des fichiers et le fonctionnement, bah, ça a pas mal vieilli. Et du coup, c'est vrai que je suis assez rapidement passé à Centréon, sur lequel je suis resté assez longtemps. Alors là, je parle en termes de supervision et pas d'observabilité. Je suis plus resté après sur du Centréon. J'ai pas testé trop d'autres choses. Après, j'ai pas mal fait, comme je disais, Dynatrace. Du moins, j'en ai fait plusieurs fois et j'ai un peu expliqué les avantages. Donc, c'est un produit qui est intéressant, mais comme je disais, assez lourd, surtout si vous l'installez en on-premise. Moi, j'ai jamais utilisé la version SaaS, mais on-premise, c'est assez lourd et c'est assez coûteux. Et ensuite, il y a la solution donc du coup bah, que Erwan évoquait, qui est du coup Prometheus, avec généralement on couple un Grafana avec pour avoir des vues, parce que Prometheus va plus s'occuper juste des métriques et du coup tu veux aussi de l'alerting en partie. Donc du coup, c'est un combo qui est assez intéressant parce qu'il est très flexible, il est open source, il est assez simple et je pense qu'il est très très puissant. Il est très puissant, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est un produit sur lequel j'aimerais bien retravailler donc, dans mes prochaines missions. Faut que j'aide de trouver des use cases dessus parce que c'est vraiment un produit qui m'a intéressé. Ensuite, on a déjà parlé de ce qui est ensuite ELK et ce qui s'ensuit, qui là va être plus pour du log management, mais c'est vrai que c'est un classique ELK, donc Elasticsearch, Logslash et Kibana. C'est un classique qui fonctionne très bien, qui là aussi est flexible. Donc, pourquoi s'en priver entre guillemets, je le conseille aussi, quoi. Et toi, du coup, Christophe, toi, tu conseillerais quoi? Ou qu'est-ce que tu as déjà utilisé?
Moi, j'ai commencé comme tout le monde avec Nagios. Je regarde pas forcément un très bon souvenir, surtout que je crois que ça a pas beaucoup évolué. On en a encore hein, chez l'Hydra, notre supervision encore sur Nagios. On va la changer. Moi, j'aime beaucoup Datadog parce que ça va très vite. Après, depuis que j'ai découvert NetData, maintenant, c'est vrai que NetData, ça permet d'avoir et les graphiques et la supervision sur un seul serveur en live. C'est très léger, ça prend très peu de ressources mémoire, très peu de ressources CPU, ça prend pas de ressources disque parce que c'est du live. Du coup, si on veut stocker en fait la donnée, bah, il faut avoir un back-end type Prometheus et autres. Mais je trouve que NetData, c'est un bon compromis finalement pour avoir une solution qui est à nous et qui est facile à installer. Après, pour avoir une solution centralisée, je pense qu'on va très certainement aller sur du Prometheus Grafana, comme tout le monde, surtout que Prometheus, ça permet aussi d'avoir les stats de Kubernetes, et on a tendance à travailler beaucoup avec OpenShift Kubernetes, de plus en plus, et coupler ça avec un ELK pour la centralisation de logs, encore que je suis pas fermé à Greylog. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Greylog, c'est une alternative à ELK. Et là, il faut vraiment qu'on étudie laquelle des deux solutions consomme le moins, parce que ELK, il y a quand même, je crois qu'il y a Elasticsearch, c'est quand même un truc assez consommateur, mine de rien. Maintenant qu'on a parlé de nos solutions préférées, on en a déjà parlé au début. La première chose qu'on monitore, en fait, enfin plutôt les premières choses qu'on monitorait à l'époque, c'était le système. Donc le CPU, la RAM, les disques, les I/O, le réseau, etc. Mais ça suffit pas, et puis ça nous permet pas d'avoir des alertes qui soient pertinentes, parce que souvent quand on a des alertes CPU ou RAM, enfin, je pense que vous avez fait de l'astreinte comme moi, mais quand on est réveillé à 4 heures du matin parce que le CPU, ça fait 5 minutes qu'il est à 100%, mais au final, quand on arrive, qu'on se réveille, qu'on se connecte, que l'alerte, elle est passée, ça fait pas plaisir. Donc là, comment est-ce qu'on pense sa supervision pour améliorer justement notre observation du système? Est-ce que vous avez des pistes? Damir, toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Quel genre de pistes tu mets en place et quel genre de choses tu aimes regarder?
Je pense donner un grand classique, mais on l'attend. L'amélioration continue, tout simplement. Il y a des moments où on ne peut pas inventer. Comme tu le dis, j'ai fait de l'astreinte aussi. C'est relou d'être réveillé pour rien. Le problème, c'est pas d'être réveillé pour rien. Le problème, c'est d'identifier pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est utile? Et de corriger ça. Et ensuite, de se dire que je serai plus réveillé pour ce problème-là et d'améliorer comme ça constamment. Après, c'est comme tout. Il y aura forcément des faux positifs. On peut le réduire un maximum, mais je pense que c'est inhérent. Faut arriver ensuite, je pense aussi, à se détacher des métriques uniques. C'est-à-dire pas faire juste une alerte parce que j'ai un pic de CPU. Par contre, est-ce que je veux faire une alerte parce que j'ai un pic de CPU, j'ai pas mal d'IO et mon application commence à mettre du temps à répondre? Là oui, ça commence à être intéressant. Ou bien faire des compositions comme ça de plusieurs métriques pour en déterminer une alerte. Je pense que c'est quelque chose qui réduit grandement le nombre de faux positifs parce qu'on a tous eu, ouais, effectivement, à 2 h du mat, quand il y a toutes les crones de backup qui se déclenchent et que du coup il y a des activités IO et à du CPU, bah, on est réveillé, on est bon, bah c'est normal, c'est un cron qui s'est lancé. Donc oui, je pense que là, il faut réagir et faut se dire, ben, je vais pas me contenter de juste déclencher les alertes parce qu'il y a un indicateur, mais plusieurs indicateurs m'indiquent que ma situation est en train de se dégrader. Je pense que c'est la meilleure manière de faire, du moins de mon point de vue et de mon expérience. Après, ben, y a d'autres points de vue, il y a d'autres manières de faire. Je sais pas si Erwan, toi, tu as d'autres pistes pour justement répondre à cette problématique.
Hein, effectivement, les faux positifs, c'est un peu le vrai mal de ce milieu, quoi. À force de vouloir, on veut avoir le maximum d'informations, mais par contre, il faut que cette information, elle ait du sens. Et les faux positifs, en fait, c'est vraiment ce qui détruit le sens du monitoring, parce que on est déjà tous allés dans des lieux où il y a un espèce de grand dashboard où on voit qu'il y a trois trucs en rouge et qu'on dit ah mais il y a des trucs en rouge, il y a peut-être un problème, et on dit non mais c'est normal. Bah en fait non, si c'est normal c'est que ça doit pas être en rouge. Ça c'est vraiment un sujet. Et puis l'autre sujet, c'est aussi qui on prévient quand il y a un problème. Parce que c'est pas tout de générer des alertes. Une fois qu'on les a bien générées, il faut que l'alerte bah, ping la personne idoine pour le sujet. Et faut pas pinguer la terre entière, parce que si ça devient le problème de tout le monde, ça devient aussi le problème de personne. Il y a tout un travail à faire autour de ça. Je sais qu'il y a des outils et des services, genre PagerDuty ou quoi, pour aider sur ce genre de questions. Mais pour moi, les deux sujets sur lesquels il faut faire un peu attention, c'est ça, c'est les faux positifs qui en alertent, et surtout aussi acquitter les alertes pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est dessus ou que c'est en cours d'analyse.
Bon ben vous avez tout dit en fait, j'ai plus rien à dire. Ouais, alors en effet, agréger des alertes pour savoir ce qui se passe, moi je pense que je vais de plus en plus là-dessus, parce qu'en effet, lever une alerte sur le CPU, surtout que bon, l'objectif c'est quand même de surutiliser les machines et d'avoir un nombre d'applications qui est hyper important, donc que le CPU soit à 90% tout le temps. Pour moi, c'est pas gênant. Par contre, en effet, si l'application, elle commence à mettre du temps à répondre, là, ouais, c'est une vraie alerte. Et surtout si on couple ça avec le nombre de requêtes. Enfin, bref, lever des alertes avec plusieurs indices de supervision, c'est vraiment une bonne pratique. Et la deuxième chose, en effet, c'est, comme tu l'as dit, Erwan, hein, si c'est rouge, mais que c'est normal, c'est qu'en effet, ça va pas être rouge. Et que là, il faut vraiment repenser ces alertes et l'améliorer en continu. Parce que si une alerte, elle revient tout le temps, et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas une alerte, bah il faut pas la lever, c'est tout. Ou alors faut améliorer la manière dont est levée l'alerte. Et le traumatisme des faux positifs, bah je pense qu'on en aura tous et on en aura tous encore longtemps. Bah une fois qu'on a pensé ça, alors on est resté encore, je trouve très système, un petit peu application, mais il y a un truc dont je voudrais qu'on parle, c'est les APM. On a brièvement utilisé le terme, c'est l'application Performance Management ou le management des performances de l'application. C'est souvent des add-ons qui se rajoutent sur notre supervision qui nous permettent d'avoir des informations comme en combien de temps l'application elle répond, par quel chemin de code elle est passée et où est-ce qu'elle prend du temps. Est-ce que vous avez déjà utilisé ou vu vos développeurs utiliser des APM? Et si oui, est-ce que vous avez des bons APM, si possible libres, à conseiller à nos auditeurs?
Alors moi, côté APM, j'ai pas trop touché directement. Après, je pense que ça aussi, c'est comme je dis, c'est important, je pense, le monitoring, l'observabilité, de travailler avec les devs dessus. parce que ils ont quand même une partie qui leur incombe, qui est le développement. Donc c'est intéressant de bosser avec eux, et pour les APM c'est encore plus intéressant. Et j'ai essayé de mon côté, comme j'ai dit, Dynatrace, c'est le seul auquel j'ai réellement un peu touché, et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire des analyses plus approfondies du code, et du coup on peut vraiment faire une analyse beaucoup plus complète. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir corréler ça avec les autres, les métriques plus classiques entre guillemets, pour se dire, ah mais on a un ralentissement, mais c'est dû à cette fonction, et après de déduire un cheminement logique, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant, notamment pour le debug, moi je pense. Et c'est quelque chose qui est souvent plus que le supervision. L'APM, j'en vois encore plus rarement, et c'est un peu dommage, je pense. Notamment, comme je disais, pour le debug niveau dev et pour l'optimisation du code. Je sais pas ce que t'en penses, Erwan, de ça, et je sais pas si t'as d'autres expériences dessus.
Alors pareil, moi j'ai jamais trop utilisé les APM. Je me souviens que quand j'étais chez Deezer, on utilisait un petit peu New Relic justement pour mais par contre pour des raisons de coût, on le déployait pas partout. C'était déployé sur genre deux ou trois machines pardon témoins. Et en fait l'idée c'était d'arriver à sortir des trends sur comment se comporte l'application pour justement pour pouvoir après agir dessus. Mais je sais que, enfin je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a des modules et des outils APM pour la stack ELK qui sont édités par Elastic, mais j'ai pas trop regardé à quoi ça correspondait. Mais aujourd'hui, je dois avouer que on voit plus ça comme quelque chose qui est un nice to have, et que actuellement on met plus d'énergie plus sur la partie monitoring et le suivi par les logs.
Alors, en effet, ouais, moi je le vois assez rarement, l'APM, alors que pourtant c'est essentiel, parce que sans ça, en fait, on peut passer des heures, voire des jours à analyser un problème de performance, alors qu'avec un bon APM, eh ben, ça peut être réglé en effet en quelques heures, puisque tout de suite on va voir ce qui se passe. Nous, on a utilisé chez mes clients aussi New Relic, et en effet, ça coûte très très cher. Il y a New Relic et il y a Datadog qui proposent ça. Datadog, en plus, ils font si je me trompe pas, ils font du learning sur les APM qu'ils déploient. Donc, ça veut dire que leur solution, elle auto-apprend, mais c'est excessivement cher. En effet, il y a Elasticsearch qui a sorti Elastic APM. Je ne sais pas si c'est libre. J'ai pas regardé la licence. Et je sais que j'avais cherché des solutions libres et je n'avais pas forcément trouvé grand-chose. Et si je ne m'abuse, il y a Prometheus aussi qui propose un APM. Je vais vérifier ça tout de suite avant de dire une bêtise.
Sinon, si on y a du PHP, il y a aussi un profiler qui peut faire un peu office d'APM, il me semble, c'est Blackfire, du coup, qui est une ancienne boîte qui était à l'époque attachée à Symfony, qui du coup, elle fait cette partie-là aussi. Et comme j'ai, il y a Dynatrace, donc qu'on n'a pas, que tu n'avais pas recité. Et ensuite, bah, Prometheus, je te laisse check si il y a effectivement un add-on pour le faire. Généralement, oui, les solutions sont. Il y a très peu de solutions répandues qui soient libres et ou gratuites, moins gratuites, auto-hébergeables, entre guillemets. Donc, c'est à voir après en fonction des besoins aussi et bah, du coup, tout simplement du budget.
Non, j'ai pas l'impression que Prometheus propose d'APM. Je pensais avoir lu ça, mais je pense que je me suis trompé. En effet, ouais, c'est. Parce que avoir un service, c'est une chose, mais en effet, l'auto-héberger, c'est bien parce que finalement, là, c'est des données qui peuvent être métiers, qui peuvent passer, enfin, surtout dans les logs, plus que dans l'APM, mais c'est quand même pas mal de garder ces données-là en interne. En tout cas, je pense que ça va être amené à se développer, les APM, de plus en plus, parce qu'on voit l'explosion des solutions de supervision libre. À mon avis, les solutions de supervision applicatives vont être le prochain pas. Maintenant qu'on a notre supervision, qu'on a mis notre APM sur notre dernière application, comment est-ce qu'on va plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On l'a rapidement abordé. L'une des choses qu'on peut faire, c'est centraliser ses logs. Et c'est en gros, quand on a beaucoup de machines, plutôt que d'aller se connecter sur chaque machine pour aller observer les logs, dans plein de fichiers différents d'ailleurs, souvent, ce que j'ai fait longtemps chez certains de mes clients, on peut prendre toutes les logs qui sont pertinentes et les agréger dans un agrégateur de logs. Et on en a cité deux, ELK et Greylog. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez peu pour l'instant, et du coup, j'aimerais bien avoir votre retour sur la facilité que ça peut amener aux exploitants, justement, de centraliser les logs.
Ah bah c'est, moi, je vois ça comme le truc le plus vital, quoi. Avant, il y a des années, on se loguait sur les machines pour regarder justement les logs, etc. Puis avec Syslog, enfin les solutions genre R-Syslog, on a centralisé ces logs-là sur une autre machine, et donc du coup on n'avait plus qu'une machine sur laquelle se loguer pour avoir accès à ces logs, c'était déjà beaucoup mieux. Mais en vrai, le fait d'utiliser des solutions donc avec comme la stack ELK, et j'imagine du coup que Dialog c'est sensiblement la même chose, je connais pas assez bien. Mais l'avantage c'est que on peut agréger les logs, on peut faire des requêtes dessus, on les parse en fait quand on les ingère dans la base de données, donc du coup on peut faire vraiment des choses hyper malines et recroiser des informations de services qui sont totalement différents, par exemple ton service web avec ton supervisor qui a lancé ton API Python par exemple, tu peux recroiser tous ces logs là et comprendre que à un moment mon Nginx a renvoyé des erreurs 500, en fait c'est parce que mon supervisor a redémarré l'API, et ça tu peux le voir dans des vues agrégées très très facilement. Alors c'est pas magique, ça demande du temps, surtout quand c'est la première fois à mettre en place. Si t'as pas la chance d'avoir des logs dans des formats type JSON, ça veut dire qu'il va falloir créer des regeps pour les parser, et donc du coup ça aussi ça prend du temps, faut les tester, etc. Mais aujourd'hui, personnellement, là où je suis actuellement, je suis hyper content de pouvoir voir l'intégralité de ce qui se passe sur l'infra juste via des dashboards où j'ai juste à filtrer sur erreur, et puis je vois toutes les erreurs quel que soit le service de l'infra, quoi.
C'est vrai que pour moi aussi, aujourd'hui c'est limite indispensable en fait d'agréger les logs pour plusieurs raisons. Déjà, il y en a une qu'on n'a pas citée, mais c'est tout simplement qu'on n'est plus sur des infrastructures en général où une machine on la lance, on s'en occupe et on la bichonne. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée de lancer les choses et d'être vraiment, on va dire, à la volée. Donc demain, je lance une VM pour absorber ma charge, elle va être trash 10 minutes après, mais moi j'aurais peut-être besoin des logs. Donc c'est très important de les agréger quelque part pour pouvoir les traiter après, comme disait Erwan. En plus, ça vous offre des capacités de traitement qui sont vraiment agréables, entre guillemets, parce que demain, vous avez 3 VM, vous devez chercher combien une requête en particulier sur une URL sur une heure donnée parce qu'on a eu un souci avec le site. Si vous devez faire des greppes avec des pipes sur les 3 serveurs et après faire des calculs pour les trouver, alors qu'en une commande vous l'avez sur votre système d'agrégation de logs, il y a quand même une solution qui est plus simple. Et du coup, surtout si vos machines sont dans un auto-scaling group, c'est même pas la peine vu que vos machines auront été détruites entre temps. Donc c'est vraiment important. Et il y a aussi un point sur lequel j'aimerais juste au moins l'évoquer parce qu'on n'a pas abordé du tout là-dessus, c'est que c'est aussi important pour la sécurité en fait. Si vous avez une machine qui est compromise et que vous n'avez pas les logs qui sont exportés, les logs en fait, l'attaquant il va pouvoir y toucher comme il veut, et quand vous allez y accéder, vous n'avez aucune certitude que les logs ont été touchés ou pas. Donc avec du coup de l'agrégation de logs sur un serveur à part, vous allez pouvoir faire des analyses au niveau de la sécurité, vous allez surtout pouvoir les conserver pour faire après de l'analyse post-incident, post-pénétration du coup de la part d'un attaquant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de ce point de vue là et qui est du coup, je pense aujourd'hui, aussi vital que la supervision. Donc ça c'est un peu les points que je souhaitais relever dessus. Moi généralement en ce moment je suis plus sur du CloudWatch, donc service d'AWS pour gérer ça, parce que comme je disais on est déjà sur AWS, donc autant pas rajouter trop de couches. Mais c'est quelque chose, comme on a dit, il y a R6Log, il y a ELK, il y a Greylog, il y a plein de choses qui permettent de le faire. Ça prend du temps, mais je pense que c'est plus que nécessaire. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Christophe, dessus.
Ouais, je vais juste rajouter, je vais compléter en fait ce que tu dis. En effet, c'est super important parce que quand on est dans le cloud, les machines elles ont tendance à à crasher ou à être arrêté. Et c'est la même chose en fait quand on est dans des conteneurs ou quand on est dans des microservices et qu'on a un orchestrateur comme Kubernetes ou d'autres. Et là, c'est sûr, les conteneurs, ils s'arrêtent régulièrement et si on centralise pas nos logs quelque part, ben, on n'a pas les logs des conteneurs. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la mise en conformité continue. C'est parce que là, on est entre l'infrastructure as code et la supervision. Parce que finalement, en fait, là, on a parlé que de regarder ce qui se passe sur nos serveurs. Mais en fait, s'il y a quelque chose qui change, un état qui change sur un de nos serveurs, les solutions de monitoring, elles pourront certes le relever, mais elles pourront pas le corriger. Du coup, il va falloir qu'on se connecte ou qu'on lance nos playbooks en cible pour le faire. Et il y a une solution open source qui s'appelle Rudder. Je sais pas si vous connaissiez, mais qui permet de faire ça, qui permet en fait d'avoir... de gérer toutes ses machines sur son infrastructure, de gérer tout ce qui est infra as code et l'installation et la mise à jour, mais aussi la mise en conformité, c'est-à-dire qu'en fait, Rudder régulièrement va passer sur ses machines et voir si tout est conforme par rapport au dépôt qu'il a, et si c'est pas conforme, il va réappliquer les règles qu'il a. Donc si quelque chose change sur un serveur, par exemple, quelqu'un se connecte manuellement sur un serveur en SSH et change une configuration parce que pourquoi pas, et ben Rudder va passer derrière et va justement réappliquer l'ancienne configuration. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce genre de choses avant ou pas?
De Rudder, non, mais finalement c'est comme Puppet, non?
Alors, je connais pas assez bien Puppet, je sais pas si Puppet permet aussi de générer des états et des rapports, parce que Rudder permet aussi de générer des rapports pour justement pouvoir les apporter en cas de vérification, puisqu'il y a certaines boîtes qui l'utilisent qui sont par exemple certifiées, et ben les rapports de Rudder peuvent permettre d'avoir la certification ou de garder cette certification là. Donc là je sais pas si Puppet fait ça.
De mémoire, Puppet fait pas ça, en tout cas pas de manière aussi complète et out of box entre guillemets. Il va falloir, je pense, développer des add-ons, des choses comme ça. Moi, je parle vraiment de mémoire. Hein, Puppet, ça fait quand même quelques années que j'ai pas touché. Et autrement, moi, je connaissais le produit de nom grâce au DevOps Rex, mais j'ai pas eu trop le temps de regarder plus près ou d'y toucher. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant effectivement d'avoir des rapports et des choses comme ça, surtout dans un contexte de sécurité. Après, je sais qu'il y a d'autres produits qui le font. Là, j'avais plus le nom en tête, mais chez mon client, on utilise un autre produit, mais j'ai plus le nom du tout en tête là. Petit trou de mémoire.
Bah, si tu retrouves le nom, on le mettra dans les commentaires, dans les liens en commentaire du podcast. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On est déjà 1h16, je vois. C'est un long podcast. Encore merci à tous les deux pour cette discussion. C'est toujours très agréable de discuter avec vous. Et j'espère que nos auditeurs en auront appris un peu plus sur la supervision. Un petit mot pour la fin?
Pamplemousse.
Superviser vos infrastructures et vos applications, c'est important.
Oui, pensez à les observer, à les regarder, à les bichonner. Ne bichonnez pas trop vos serveurs par contre, mais bichonnez votre infrastructure de manière globale. Et en tout cas, on vous dit à bientôt et bon déconfinement.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.